Chapitre 13. Aventure dramatique. Monsieur Tyrold, conformément au système d'éducation établi dans sa famille et dont un peu d'amusement faisait partie, fut bien aise de voir le plaisir que cette liaison commençait à causer à Camilla. Il ne connaissait Mistress Albery que par la voie publique. Elle passait dans le monde pour une femme d'esprit et du bel air, mais on disait aussi que, quoiqu'elle fût vive et décidée dans ses manières, son cœur n'était point fermé à l'amitié, ni sa main aux besoins de l'indigence. En permettant à Lionel de rentrer dans la maison paternelle, il lui fit une leçon énergique sur le dérèglement de sa conduite. « Ce qu'il avait fait, lui dit-il, quelle que fût la couleur qu'il pût donner à cette action pour en pallier la honte à ses propres yeux, était un vol, et même un vol du genre le plus atroce et le moins excusable. » Il avait ajouté la terreur à la violation de la propriété. Il s'était fait un jeu de la faiblesse d'un homme dont il aurait dû lui-même être le premier à protéger, à cacher ses infirmités. Cette action en elle-même n'eût-elle été qu'un badinage, elle devenait un acte d'inhumanité par la situation de celui qui en était l'objet. Mais, ajouta-t-il, vous l'avez commise dans la seule vue d'en tirer de l'argent. Elle devient déshonorante pour vous et criminelle d'après les lois de votre pays. À compter de ce jour, je ne vous en parlerai plus. Votre oncle, quoique mourant, s'est expatrié. Votre mère, trop justement irritée pour consentir à vous voir, vous sacrifie pourtant son bonheur. Ce que je vous dirai serait désormais trop faible en comparaison de ce que doivent vous dire et vous faire éprouver vos propres réflexions. » Après cette courte harangue, Lionel fut, pendant quelques heures, au désespoir. Mais il se consola bientôt après en se disant à lui-même qu'il était inutile de s'apesantir sur le passé. Le jour suivant, Mistress Albery fit sa visite à Etherington. Elle invita les deux sœurs à déjeuner pour le lendemain. Monsieur Tyrold, surpris que Mandelbert n'eût point paru depuis 2 jours, permit cet amusement à Camilla, qu'il trouvait inquiète et pensive. Le temps était beau. Les deux sœurs allèrent pédestrement à Grove, conduites par Lionel. Du haut de la petite éminence qu'elles étaient encore obligées de franchir, elles observèrent un groupe de monde sur la terrasse qui formait le toit de la maison de Mistress Albery. Quand elles se présentèrent à la porte, le major Sherwood les reçut et les conduisit à la terrasse. On était alors à la fin de juillet. Il faisait chaud. L'élévation donnait un peu de fraîcheur. La table et les sièges étaient disposés sous une tente. Une harmonie de cordes et de clarinettes se fit entendre pendant tout le déjeuner. Le motif de ce divertissement était la sortie des premières écoles d'une jeune demoiselle, Miss Denel, nièce de Mistress Albery, à l'âge de 14 ans. Miss allait faire les honneurs de la table et de la maison de son père. Elle avait prié sa tante de lui donner un bal à l'occasion de ce joyeux événement. Mais Mistress avait déclaré qu'elle ne donnait point de divertissement dans lesquels elle ne put jouer elle-même le principal rôle et que, d'après ses principes, les concerts et les bals n'étaient point sur la liste de ses amusements. « J'aime fort, dit-elle, avoir brillé les autres, mais ailleurs que chez moi. Je ne suis point assez accommodante pour me soumettre à n'être rien dans ma propre maison. » Elle offrit donc un déjeuner à sa nièce, en lui permettant d'ailleurs de faire un travail, à son gré, sur le genre de pâtisserie et de rafraîchissement qui lui conviendrait. Le trio d'Etherington fut reçu de la manière la plus polie, et Camilla surtout, avec des marques particulières de faveur. Il s'est trouvé peu de nouveaux hôtes, outre l'héroïne de la fête. Camilla se rappela qu'elle avait entendu sa voix, le jour même qu'elle avait prêté l'oreille pour entendre ce qui se disait dans le paddock. Miss Denel était fraîche, grande et jolie, mais elle annonçait aussi peu d'esprit qu'elle avait peu d'expérience. Cependant, elle se croyait abondamment pourvue de l'un et de l'autre. Autrement, l'eût-on fait sortir de l'école pour présider la table de son père? Camilla n'avait besoin, pour s'amuser, que d'écouter attentivement sa nouvelle amie. Lavinia, toujours modeste, n'était guère que spectatrice. Le reste de la compagnie découvrait, avec des lunettes d'approche, les maisons de campagne du voisinage et passait en revue les divers caractères de ceux qui les habitaient. Mais Lionel, qui ne pouvait rester en repos, profita de l'occasion pour parcourir les hautes régions de la maison. Ayant pénétré dans un grenier fort spacieux, il revint promptement assurer toute la compagnie que cet emplacement serait excellent pour élever un théâtre et demanda si quelqu'un voulait jouer la comédie avec lui. M. McDercy dit qu'il ne savait aucun rôle, mais qu'il se ferait un plaisir de contribuer aux amusements de la société. Ils sortirent ensemble et dans l'espace de quelques minutes, ils eurent renversé tous les meubles de la maison. On les entendait traîner d'un bout des appartements à l'autre, de vieux sofas, des dossiers de lit, des coffres, des paniers, des paquets de tapis et de sparteries roulés pendant l'été, des tables et des chaises. Ils formèrent de tout cela un demi-cercle de sièges, laissant une place vide au milieu. Les tapis furent étendus, ce qui fit le théâtre. Les couvertures des lits furent déployées et suspendues, ce qui forma les coulisses. Miss Dennel, qui les avait suivis par curiosité, s'écria qu'elle n'avait encore rien vu de plus beau ni de plus élégant. Les travailleurs étaient prêts à remonter lorsque la vue d'une petite porte qui se trouvait à l'entrée de la grande pièce excita la curiosité de Lionel. Il essaya de l'ouvrir, quoique la clé fût en dedans. Ne pouvant le faire par adresse, il entreprit d'y réussir par la force. Mais, en ce moment, un bruit épouvantable les fit tous tressaillir. Miss Dennel s'enfuit en poussant de grands cris. « Oh Dieu ! Oh ciel ! Oh voleur ! Des voleurs enfermés dans un petit cabinet noir ! Monsieur McDercy, Monsieur Tyrold sont aux prises avec eux !» À ces mots, les officiers coururent. Ils arrivèrent au moment où McDercy, frappant de tout le poids de son corps contre la porte, l'enfonça d'une telle violence qu'il se jeta dans un baquet plein d'eau qui se trouvait derrière. Les domestiques, arrivant en même temps, lui dirent que ce cabinet était celui de la servante et qu'elle y tenait ses poils, ses nattes, etc. L'on vit, à l'examen, que le bruit n'avait été produit que par la chute d'un paquet de nattes sur les chaudrons, tandis qu'il secouait la porte avec force. Se voyant ainsi mouillé, l'enseigne devint furieux et Lionel se mit à rire aux éclats. Le reste des spectateurs était prêt à rire aussi lorsque McDercy demanda d'un ton de colère à Lionel si ce baquet avait été mis là pour lui jouer pièce. « Dans ce cas, dit-il, il vous resterait peu de temps à rire. »« Et voulez-vous, s'écria Sir Sedley, terminer vos jeux par des tournois ?» « Monsieur, répliqua l'enseigne, je ne veux être le jouet de personne, et s'il arrive que je le sois, je me donne alors un autre divertissement. » Les autres s'empressèrent de calmer le courroux de McDercy. On lui fit voir que cela n'était que l'effet du hasard, et l'affaire n'alla pas plus loin. Lionel, après avoir assuré lui-même McDercy qu'il n'avait nullement préparé cet événement, alla prier les dames de descendre au théâtre. Alors, chacun devint à son tour acteur et spectateur. Chacun joua des scènes conformes à son caractère, les unes tristes, les autres gaies, celles-ci de mémoire, les autres improvisées. On était au milieu de ces amusements lorsque tout à coup, on voit entrer dans la salle Mandelberg conduit par Lionel. « Voici, dit-il à Miss Risalberry, un nouvel acteur que je vous amène. » Camilla, surprise, fit involontairement une exclamation qui frappa l'oreille d'Edgar, attira ses regards sur elle et ne lui permit pas d'achever le compliment qu'il avait commencé de faire à Miss Risalberry. Avant de descendre au théâtre, Lionel l'avait aperçu du haut de la maison comme il passait sur la colline. Sans rien dire, il avait volé vers lui, l'avait presque forcé de mettre pied à terre et de monter au théâtre. Miss Risalberry, comme les personnes qui se dispensent de toutes les formes en ce qui concerne les autres, les exigeait rigoureusement pour elle-même. La visite d'Edgar, dont elle n'était pas directement l'objet, lui fit donc peu de plaisir. Elle le reçut avec beaucoup de froideur et se mit à causer avec le général. Edgar s'aperçut à peine de cette réception. Étonné de trouver Camilla dans cette maison malgré sa promesse et de voir qu'elle avait l'air d'être fort à l'aise avec la société qu'il a fréquentée, il en conçut un véritable chagrin. Et quoiqu'il eût beaucoup de peine à porter ses regards d'un autre côté, il ne chercha ni à lui parler, ni à s'approcher d'elle. Outre ses motifs d'inquiétude, il eut encore à supporter les attentions bien marquées du major Sherwood pour Camilla. Le major, sous prétexte de suivre la folie du moment, et contrefaisant les héros de comédie, accablait Camilla, sans réserve et sans mesure, des déclarations de son amour, toujours accompagné de gestes et d'attitudes analogues à la situation. « Quoi, déjà ? » disait en lui-même Edgar. « Cet homme a-t-il obtenu ce privilège ? Comment peut-il avoir un tel excès de confiance? Ma langue, mes lèvres seraient tremblantes si j'avais osé proférer de semblables paroles. » Camilla, de son côté, était dans un trouble inexprimable. « Quelle opinion, disait-elle en elle-même, va-t-il concevoir de moi en voyant que j'ai manqué deux fois à ma promesse ?» Elle aurait voulu pouvoir expliquer à Mandelbert comment cette partie avait été liée. Mais elle ne put se débarrasser du major, ni de ses tendres effusions, qu'elle avait eu l'imprudente complaisance d'écouter. Lionel et Mac Dercé adressèrent tour à tour des déclarations du même genre à Miss Denel, qui parut enchantée. « Oh, je suis bien résolue, dit-elle, quand j'aurai ma maison, d'avoir une salle absolument pareille à celle-ci et d'y jouer une comédie tous les soirs. » « Et quand espérez-vous, ma chère, dit Mistress, avoir une maison à vous ?»« Mais aussitôt que je serai mariée. » « Votre mariage est donc déjà décidé ?»« Oh non, je ne sais pas cela, ma tante, mais je ne m'en embarrasse pas. Je présume seulement que cela ne tardera pas. » « Et êtes-vous bien sûre qu'alors votre mari vous permettra de jouer la comédie tous les soirs ?»« Une fois mariée, je serai maîtresse de moi-même et j'y suis bien résolue. Mais à présent, mon papa ne veut pas me le permettre. » « Oh, les papas, les mamans !» s'écria Sir Sudley. « On est sûr de les trouver toujours sur son chemin. Il est étonnant qu'on ne les ait pas encore bannis de la société. » Après cette belle pensée, Sir Sudley se leva le premier et partit. Tout le monde alors descendit au jardin, où l'on se promena par groupe encore quelque temps. Lionel et Mac Dercé continuèrent à jouer la comédie autour de Miss Denel. Enfin, chacun prit congé de Miss Rizzardberry et retourna chez soi, les uns en cabriolet, les autres à cheval et les autres à pied.